6h03, mardi 20 août. Bonne journée, bienvenue au 98.5 FM. C'est une très, très belle journée qui s'annonce avec des vents modérés, beaucoup de soleil, maximum prévu 27 degrés. Et l'humidex est autour de 30 degrés pour aujourd'hui, donc c'est un peu plus confortable que ce qu'on a connu hier. Ce soir et cette nuit, ciel dégagé avec un minimum de 18. Demain, mercredi, ça se gâte, soleil, nuages dans un premier temps, 40 % de probabilité d'averse en après-midi, risque d'orage aussi. Et demain, c'est 30 degrés et c'est humide, humidex à 38. Pour la fin de la semaine, jeudi, soleil, nuages 24 et vendredi, on prévoit du soleil et 22 degrés. Bon, évidemment, la nouvelle qui fait la une depuis hier, c'est l'annonce des problèmes financiers graves de Capital Média, c'est-à-dire 6 journaux. On pense au Soleil, on pense à la Tribune, la Voix de l'Est, le Droit. Bref, les journaux de Martin Cochon, qui est à la tête de ce groupe depuis que les Desmarais ont décidé de larguer ces quotidiens. Puis je pense que c'est important de faire un bref rappel des dernières années. D'abord, le contexte général, c'est que les revenus de la presse écrite se sont effondrés, revenus publicitaires, au profit des géants numériques. Et c'est carrément là un effondrement de marché. Donc, on se retrouve avec, au Québec, Le Devoir qui, évidemment, survit, mais ce n'est pas un journal là, qui fait des millions de profits. Il y a évidemment les journaux de Québécois, Journal de Montréal, Journal de Québec. Ça a été une mine d'or pendant longtemps. Je ne connais pas les chiffres, mais on peut présumer que ce n'est plus ce que c'était. Quand on regarde, par exemple, qu'au-delà de 80 % des profits de Québécois passent par Vidéotron, on peut deviner que le Journal de Montréal, le Journal de Québec, ne génère pas autant de revenus qu'avant. Et si vous ajoutez les magazines de Québécois, s'il n'y a pas des subventions fédérales, les magazines perdent de l'argent. Tout ça pour vous dire que, depuis les dernières années, le problème, c'est pas que l'intérêt des lecteurs a disparu. Le problème, c'est que la pub n'est pas au rendez-vous et qu'on se tourne de plus en plus vers des plateformes numériques, incluant les gouvernements qui nous annoncent des plans de sauvetage de la presse écrite. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années? La famille Desmarais était propriétaire de ces journaux. Ils ont fait ça en deux temps. D'abord, on largué les journaux qu'on retrouve aujourd'hui chez Capital Média. Et plus tard, on a décidé de laisser tomber la presse en disant « Créez votre modèle, on vous donne 50 millions pour la transition, puis après ça, vous volerez de vos propres ailes dans un univers où c'est de plus en plus difficile. » C'est clair que la presse en arrache. Le Devoir est un journal qui a toujours été en mode de survie et de combat. Et de voir, par exemple, que le modèle proposé par le fédéral aide la presse, mais ne soutient pas Le Devoir, c'est quand même assez étonnant. Et ce matin, je pense qu'il y a un consensus que les journaux dans les régions du Québec sont importants, mais les gouvernements se sont traînés les pieds. D'abord, il y a toujours cette puissance du lobby numérique auprès du gouvernement Trudeau qui, je vais dire, demeure un mystère, mais peut-être pas tant que ça. Les géants qui ont un statut privilégié, qui ne chargent pas, donc ne collectent pas les taxes, et qui continuent de pomper du contenu sur leur plateforme. En résumé, là, ça ne veut pas dire que les gens ne s'intéressent pas à l'actualité, ça ne veut pas dire que les gens ne lisent pas les nouvelles, ça veut juste dire qu'ils consomment autrement. Et qu'ils oublient que ce qu'ils trouvent comme info sur le web arrive de ce qu'on appelle les médias traditionnels. Et ça fait des années qu'on sait que c'est une question de temps avant que ça pète, là. Hier, M. Cochon s'est présenté 26 millions de dettes, puis il dit « Protégez-moi de la faillite. » Quitte son poste, nomination par intérim, le gouvernement avance 5 millions, mais pour combien de temps? Et quand je dis que les gouvernements se sont traînés les pieds, les libéraux auraient pu se pencher sur la question de façon beaucoup plus sérieuse. Pas juste donner de l'argent, là. Mais comment t'assures la survie d'un modèle de presse régionale? Et je persiste à dire, et je pense que là-dessus, il y a comme un assez large consensus, il y a un besoin d'avoir des médias, des journaux, des journalistes qui travaillent pas toujours des grandes enquêtes, c'est pas ça la question, mais une présence dans les milieux. Je pense que le premier ministre Legault l'a compris. Je trouve que sa ministre aurait pu accélérer le tempo pour arriver à cette commission parlementaire sur l'avenir. Mais là, ça va durer combien de temps? Qui va acheter ça? Qui est intéressé? Québécois lève la main en disant « peut-être ». Mais là, est-ce qu'on veut avoir un seul propriétaire de journaux à travers le Québec? Si Québécois est propriétaire de tout ça, puis soutient le devoir en vie, je vais vous dire une chose, ça limite la diversité, là. Puis on a vu dans d'autres provinces que ça pouvait donner. Alors, Cogeco a dit qu'il n'était pas intéressé, en tout cas la semaine dernière. Est-ce que d'autres joueurs... Mais pour acheter des journaux comme ça, là, ça prend des gens qui ont les reins solides, qui sont capables de combiner, puis on le voit, là, Québécois avec sa télé, avec ses journaux, est capable de faire des économies. Mais tu sais, quelqu'un qui s'achète un journal comme Le Soleil, là, bonne chance dans le marché actuel. Alors, on va recevoir ce matin Martin Cochon et le ministre responsable Pierre Fitzgibbon. Puis au même moment, puisqu'on parle de ça, M. Pelladeau qui, ce matin, s'offre une pub dans le Journal de Montréal en disant que la proposition d'Air Canada pour l'achat d'Air Transat n'est pas favorable aux consommateurs, que lui a eu des discussions, est intéressé et que, bref, il ne faut pas que Air Canada mette la main sur Air Transat, que c'est néfaste pour le consommateur. Moi, je vous le dis depuis le début, c'est peut-être une bonne nouvelle pour les actionnaires. En tout cas, ils ont l'air satisfaits maintenant que l'offre a été bonifiée, mais je ne pense pas que le client va bénéficier de cette transaction. Et quand vous regardez autant les vols vers l'Europe que les vols vers le sud durant l'hiver, les pourcentages changent, mais ça donne tout un pouvoir à Air Canada, Air Transat, dans une même compagnie. Là, ce matin, les experts ont l'air de dire que M. Pelladeau arrive un peu sur le tard, puis que quand il dit aux actionnaires, parce que lui-même est actionnaire de Transat, de rejeter la proposition, le vote va se passer vendredi. Est-ce que ça va passer? Ça reste à voir. Et il y a peut-être d'autres joueurs également qui seraient intéressés. On sait qu'il y a le groupe Mac également. Mais sérieusement, là, quelqu'un qui pense que pour le consommateur, j'entends, que c'est une bonne affaire, pense que vous êtes dans le champ. Et on a vu les pratiques commerciales d'Air Canada dans les dernières années, que ce soit sur le prix de l'essence, sur l'affichage des tarifs. Bref, moi, je suis loin d'être convaincu que le voyageur québécois va sortir gagnant de l'opération. 6h11 marque les points chauds. Merci beaucoup. Et puisqu'on parle des changements d'habitude des consommateurs, hier, Montréal a annoncé une vaste consultation publique sur les locaux commerciaux vacants pour se donner une stratégie. Il me semble que ça doit être préoccupant depuis longtemps. La réalité des commerces vides, des locaux commerciaux vides, c'est pas d'hier, là. T'sais, c'est comme là, la réponse de l'administration. Nous allons lancer une vaste consultation. On va cogner aux portes en disant aux commerçants, comment puis-je vous aider? Le taux d'inoccupation, c'est 24 % sur la rue Saint-Denis, 25 % sur Sainte-Catherine-Est, puis il y a des artères où c'est un peu moins pire, là. Boulevard Saint-Laurent, Wellington, par exemple, ou encore sur l'avenue Laurier et Mont-Royal. Alors, pourquoi c'est comme ça? Pourquoi les locaux commerciaux se vident ou ont de la difficulté à trouver preneur? Il y a plusieurs réponses. D'abord, le client, le consommateur, achète de plus en plus en ligne. Deuxièmement, puis on va se le dire franchement, vous voulez aller magasiner sur la rue Saint-Denis. Je comprends que si vous habitez dans le coin, c'est parfait, là. Mais ce n'est plus une destination pour bien des gens, ou en tout cas, ça a baissé beaucoup. Et quand vous parlez à des commerçants, c'est pas vrai que la clientèle pour alimenter leur établissement est une clientèle de quartier seulement. Alors, il y a des gens qui survivent, puis d'autres qui disparaissent. Et l'autre chose, ce qui était exclusif, et je parle pas que de Saint-Denis, là, si vous voulez aller dans tel magasin pour acheter tel item, il fallait aller là. Maintenant, tu peux aller à bien des endroits, puis les bannières se retrouvent tant sur la rive nord que sur la rive sud. Tu voulais, par exemple, un seul, Apple, magasin au centre-ville. Bien, t'en as un au 10-30, t'as plus besoin de venir en ville. Et, je dirais, les emmerdes de stationnement puis de déplacement en voiture, tu décourages une partie de la clientèle. Il y a aussi toute la spéculation des propriétaires qui en profitent. Alors, comment tu fais pour redonner une vie aux artères commerciales? Bonne question. Il me semble que les consultations, là, auraient dû être amorcées depuis longtemps. Quand des propriétaires m'écrivent ou que je leur parle, les emmerdes de chantier de construction. Tu sais, quand t'es propriétaire puis que t'as des entraves tout le temps devant ton commerce, puis ça empêche tes clients de venir, puis ça écœure, ben c'est sûr que les gens, ils changent leurs habitudes. Quand tu te sens pas le bienvenu, ben tu trouves un moyen d'aller ailleurs. Et c'est ce que les gens font. D'autre part, dans Le Devoir, ce matin, on nous cite une recherche de l'Institut national de santé publique, une première recherche sur l'évolution du tour de taille au Québec, ce qui est différent de l'indice de masse corporelle, et qui démontre que beaucoup d'adultes sont à risque de problèmes de santé cardiaque, d'hypertension, diabète, etc. Alors, en gros, ce que les chiffres montrent, c'est que, et on a comparé là, sur une période de 40 ans, les Québécois ont pris collectivement du poids. Le tour de taille moyen, ça a augmenté d'environ 8 cm, c'est-à-dire 6 cm chez les hommes, 10 cm chez les femmes. Et ça, c'est peu importe le poids. Et pour beaucoup de médecins, notamment l'auteur de cette étude, le docteur Arsenault, Benoît Arsenault, qui est prof à la Faculté de médecine de l'Université Laval, lui prétend que pour déterminer le poids santé, l'indice de masse corporelle, c'est une chose, mais que le tour de taille est beaucoup plus important. Et selon le chercheur, ces données montrent que jusqu'à 20 % des Québécois qui ne sont pas considérés comme étant obèses sont des gens qui sont à risque de santé. Et ce n'est pas qu'un phénomène québécois, c'est un phénomène, je dirais, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés développées. Et on sait depuis longtemps que les habitudes de vie, et là, c'est toujours les mêmes qu'on peut vous donner comme argument, c'est-à-dire le manque d'activité, le type de nutrition, d'alimentation. Mais c'est une des premières fois là, qu'on arrive avec une étude qui démontre que l'obésité qui se développe à l'abdomen a plus que doublé depuis 1990. Chez les femmes, c'est passé de 21 à 48 % et chez les hommes, de 14 à 32 % Alors, ce sont des augmentations considérables. Publication ce matin d'une étude de l'Institut de santé, l'Institut du Québec, sur comment va Montréal. Bien, Montréal va bien. C'est une bonne nouvelle. Ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu croissance économique. On sait que pendant un bon bout de temps, ça a été dur. Montréal pédale pour rattraper les autres villes. Et on espère que ça va continuer comme ça. Et Montréal a des défis. La qualité de vie est appréciée. Je pense qu'on peut dire, malgré tous les problèmes, là, quand on compare avec d'autres villes, que ce soit au niveau des arrondissements, des parcs, la qualité de vie en général, Montréal est une ville agréable. Ça pourrait être mieux, on pourrait limiter les emmerdes, mais c'est quand même. Là où il y a un problème, c'est l'absence, ou en tout cas une certaine rareté entourant les travailleurs qualifiés. Et si tu n'as pas de travailleurs qualifiés, puis ça veut dire taux de décrochage scolaire encore là, trop élevé, Montréal, qui sur 15 villes arrive au 14e rang pour ce qui est du pourcentage de gens qui sont allés chercher un bac, qui est en 10e place pour la proportion des jeunes travailleurs qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. En quelques mots, là, il faut qu'on ait à Montréal une main-d'œuvre plus qualifiée. Ça amène des emplois mieux payés et ça contribue au dynamisme de la ville. Donc, on va parler avec un des responsables de l'étude un peu plus tard ce matin. Ensuite de ça, une étude, puisqu'on est là-dedans, qui montre que le fait qu'on ait des chambres avec patients uniques, ça a fait tomber le niveau d'infection. C'est assez évident, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé des chambres uniques. C'est vrai pour le Centre hospitalier universitaire McGill, mais c'est vrai aussi pour le CHUM, alors qu'on avait des chambres à double puis quadruple occupation dans certains cas. Puis là, vous êtes dans un hôpital, vous avez des gens malades, bien, c'est clair que de les placer dans des chambres en solo, ça donne une baisse d'à peu près 75 % du nombre d'infections, puis ça a un effet positif sur la santé des gens et sur les coûts comme tels d'opération. Ensuite de ça, ce matin, je vais revenir sur deux sujets un peu plus tard dans l'émission. On sait que la CAQ, avec du retard, parce que c'était pas prévu dans le premier budget, a décidé de bonifier l'aide aux parents qui ont des enfants lourdement handicapés. Et on sait que c'est difficile pour ces parents-là de pouvoir je dirais, mettre leur vie personnelle de côté puis se consacrer à leurs enfants. Puis l'histoire d'une petite fille de 12 ans qu'on va vous raconter ce matin, elle a l'âge mental de 5 ans. Sa mère est obligée de la soutenir dans tout. Pour manger, pour se toiletter. Bref, c'est un job à temps plein. Et là, vous avez différents montants qui sont pris. Puis on est en train de réévaluer ça. Là, le gouvernement est parti en retard. Fait que là, le programme a été annoncé un peu plus tard. Puis là, on est en train de regarder les critères. Mais en gros, là, ce qu'on est en train de dire à des parents, c'est que votre enfant il est passé handicapé. Toi, comme parent, tu dis, ben voyons donc, voici la réalité de mon enfant. Et là, à Retraite Québec, on est en train d'analyser l'affaire. Je veux bien les délais, là, mais quand tu entres dans la bureaucratie, puis tu sais ce que ça représente comme investissement de temps, tu sais quel est l'état de ton enfant. Dans le cas de la petite fille dont je vous parle, c'est une maladie très rare, avec, en combinaison, toutes sortes de problèmes. Là. Problèmes de comportement, problèmes autres. Et la différence est fondamentale en termes d'argent. Parce qu'on veut quoi? Puis c'est toujours la même question. Est-ce qu'on veut que les parents abdiquent puis décident de placer leur enfant parce qu'ils ne sont pas capables de s'en occuper? Vous savez que la Ville de Montréal a annoncé la semaine dernière la création de ce parc gigantesque naturel Cap Nature à Pierrefonds-Ouest. Là, il y a des promoteurs qui veulent poursuivre la ville en disant que ça fait des années qui sont supposées faire un développement, tenez-vous bien, de 5500 unités d'habitation dans ce secteur, puis que la ville les tasse. Alors, ils considèrent que c'est une décision injuste et qu'ils vont décider de poursuivre. Il y a le pilote Normand Dubé, qui a évidemment piloté l'hélicoptère de plusieurs vedettes. Je me souviens pas mal de lui. Quand j'ai fait l'émission de télé avec Normand Bratoit, on en a parlé pas mal. Drôle de personnage. Alors, la Couronne veut qu'il soit condamné à 12 ans. Évidemment, pour les incendies criminels commandés contre des fonctionnaires. On sait également qu'il avait attaqué Hydro-Québec. Alors, lui considère que c'est 18 mois de prison. Ça devrait être suffisant dans son cas. Et aussi, un mot sur Jeffrey Epstein. Ça a l'air qu'il a modifié son testament, je disais ça hier, 2 jours avant de se suicider. Alors, pour nommer qui sont les gestionnaires de ses actifs. Et là, ce matin, vous en avez de plus en plus des documents qui montrent à quel point ce gars-là avait développé, avec des complices, un réseau de sollicitations et de recrutement de jeunes filles. Vous avez, je le disais hier, le prince Andrew là, qui tente de se dissocier de ça, mais qui a été vu avec Epstein après sa condamnation en Floride pour ce genre d'activité. Je pense que ça fait le tour. On va faire la pause. 6h22. On y va avec la 13.